C'était précédé de Qualité Motel et la pièce Joue Motel Paul Ritz avec Saramé et Donzel avec la pièce Cooler. On est de retour à Roche-Papier-Ciseaux. Florence,
Ben
notre
oui,
invité est avec nous. Il
par la
sera.
magie de la téléphonie. Allô Geneviève?
Bonjour Florence et Pierre-Luc.
Allô! Donc, ça sera notre seule salutation à Belle Cause pour la Cause. On est au téléphone avec une personne pour parler de santé mentale.
Et je ne sais pas de toute façon si les dons sont rétrospectifs. Par exemple, si on en parle aujourd'hui, puis si on en parle sur les ondes sans faire de
Non,
hashtag, je ne sais
ben,
pas
on
si
peut le dire,
les dons
hashtag. Je pense pas qu'il. Ouais, je
qui
pense
s'est
pas que ça
compilé,
fonctionne. C'est
malheureusement.
pas grave, je leur ferai un don d'un virement interac de 5 cents. Mais, donc,
Ou pas.
Geneviève, tu es aussi ergothérapeute. Donc, en ce moment, on est vraiment en train de prendre les ondes avec l'ergothérapie. Et on est collègues ergothérapeutes. On est surtout collègues, en fait, par l'AQEP, qui est l'Association québécoise des ergothérapeutes en pratique privée. Geneviève est responsable des communications dans cette association-là. Et je siège avec elle. Et il y a un an à peu près, Geneviève, tu as écrit un article, fait que je suis en retard sa nouvelle, sur qui s'appelle Quand la tête ne permet plus de faire le travail. Cet article-là, ça
Exactement. Donc,
parle du rôle de l'ergothérapeute en santé mentale, mais tu abordes quand même des sujets intéressants dont on a. Donc, on commence à parler de plus en plus, en fait. Patrick Lagacé l'a abordé dans la presse, mais un peu le rôle du travail avec la santé mentale, et que, oui, en parler, mais des fois, en parler, c'est pas suffisant. Dans ton article, tu dis que, justement, il y a eu un changement un peu dans les dernières années sur ce qui causait les troubles de santé mentale. C'est quoi ce changement-là?
en fait, dans les dernières années, ce qu'on a pu voir là, dans les milieux de travail, c'est qu'il y a eu là, une montée assez rapide dans le fond des progressions des compagnies qui a fait que l'humain en soi est devenu peut-être un petit peu moins central là, en termes de pour les dans le fond dans la mission des employeurs. Donc les rentabilités, le côté financier avait pris un petit peu plus d'importance dans la croissance des entreprises. Ce qui fait que dans le fond, ce qu'on a vu, c'est que les gens, ce qu'ils dénotent de plus en plus, c'est qu'ils voient que tout ce qui est les relations sociales dans la compagnie, le sentiment d'appartenance, ça s'est un petit peu dégradé avec le temps. Donc, le support social est moins élevé. Également, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu énormément de pénuries dans les dernières années. Donc, les gens, s'ils étaient une équipe de cinq, ils pouvaient se ramasser avec comme trois personnes dans l'équipe. Donc, ils ont eu des surcharges de travail. Donc, on voit ça quand même dans beaucoup de milieux de travail. Donc, on a voulu progresser très vite, mais le milieu de travail, en tout cas, n'a pas été capable de s'adapter aussi vite, ce qui a amené là, beaucoup de situations stressantes. Et dans la vie personnelle des gens, dans le fond, on le voit aussi là, avec la technologie, tout va aussi un petit peu plus vite. Donc, je pense qu'aussi cette balance-là, même entre les milieux de travail et la vie personnelle, je pense que ça devient de plus en plus compliqué, là, dans le fond, de concilier le tout pour avoir une bonne santé mentale.
Exactement. Donc, ce qu'on entend, ce à quoi tu réfères dans ton article, c'est les troubles mentaux courants qui comprennent la dépression, troubles d'adaptation, troubles anxieux, stress post-traumatique et syndrome d'épuisement professionnel. Donc, c'est des troubles de santé mentale qui n'incluent pas nécessairement la schizophrénie ou les maladies psychiatriques qui sont plus graves, mais pas nécessairement plus graves parce que la dépression, ça peut être sévère. Mais ça, donc, on parle vraiment de quelque chose de courant. Et le terme courant en soi est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont de plus en
Exactement.
plus. Tu as parlé un peu justement de l'équilibre. Qu'est-ce que les gens peuvent faire en prévention de ça? Donc, tu sais, considérant que le travail a évolué très vite, la technologie a évolué, qu'est-ce que comme individu, on peut faire un peu en prévention, donc en amont, pour essayer de se protéger de ces troubles de santé mentale-là?
En fait, c'est sûr que l'équilibre de vie, c'est vraiment dans le fond la priorité qui va nous préserver, dans le fond, de garder justement notre équilibre dans le quotidien. Donc, c'est sûr que le travail est quand même une très grande partie de notre vie. On peut malheureusement pas vraiment le mettre de côté, mais quand même, à l'extérieur du travail, on a quand même une vie. Donc, même si ça se passe un petit peu moins bien au travail, on peut quand même mettre des efforts à l'extérieur pour que ça fonctionne bien. Et je dirais que pour moi, en tant qu'ergothérapeute, c'est certain que la priorité reste dans le fond, les principes de base pour être bien. Donc, de prioriser son sommeil, d'avoir un bon sommeil récupérateur, de pouvoir avoir un bon réseau social. Malheureusement, en ce moment, on est vraiment dans une société que les gens sont très isolés, ils font pas facilement confiance, ils construisent pas vraiment des liens solides. Donc, quand on vit des périodes plus vulnérables, on a moins tendance à vouloir demander de l'aide si jamais on n'a pas des gens proches de nous. Donc, d'oser, en fait, en parler avec des gens, oser pouvoir le partager.
Puis
Et
souvent, une fois
ensuite,
qu'on va
c'est
pas
sûr.
bien, quand on est dans un mindset où ça va pas bien, c'est vraiment plus dur d'aller chercher les gens, d'aller créer des liens dans ce moment-là. Donc, si, quand ça va bien, on a des liens significatifs qui sont déjà créés, on fait partie de communautés où on a justement des activités qui nous amènent ces relations-là avec les gens, ça peut permettre d'aller, quand ça va pas bien, après ça, aller chercher l'aide peut-être plus facilement. Donc, si vous remarquez que votre cercle social est peut-être plus réduit, ou si justement votre cercle social, des fois c'est votre couple, éventuellement si votre couple fonctionne pas, il faut avoir une espèce de voie de sortie, donc d'aller en prévention un peu développer des interactions sociales un peu plus.
Exactement. Et une base aussi très importante, c'est surtout qu'on va le répéter sans cesse, c'est sûr que c'est l'activité physique. Donc l'activité physique nous produit un antidépresseur naturel, donc c'est certain qu'en plus, si on le coupe avec des amis, faire de l'activité physique, il y a de quoi de très curatif là, dans ça.
Ouais. Puis c'est drôle, Pierre-Luc, tu m'avais déjà parlé d'une étude qui était sur les activités significatives, puis que même si c'était pas nécessairement une activité physique d'intensité élevée, mais juste d'avoir un loisir, une activité significative qu'on pratique encore avec le temps, c'était un facteur protecteur des problèmes de santé généraux chez les personnes qui vieillissent. C'est bien ça?
Oui. Ben, il y a plusieurs études là, qui démontrent effectivement des liens entre ce genre d'activité-là. Le fait d'avoir des activités où il y a un sens, là, c'est assez protecteur en soi. C'est sûr que, comme Geneviève le disait, là, toute la notion d'interaction sociale, bon, ça, les études sont presque sans équivoque. Là, le lien est assez bien démontré. Puis aussi sur la santé mentale, effectivement. Mais en fait, je pense que sur les aspects individuels, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Moi, je serais curieux de savoir c'est quoi les actions qui peuvent être faites, mais plus largement, parce que je pense que, tu sais, toute la notion des conditions de travail dont on parlait, la pression qui est mise sur les employés, ça, je pense que tu l'as bien dit, Geneviève, dans la première partie de ce qu'elle expliquait. Puis je me demande justement là-dessus, c'est quoi les actions qui peuvent être faites pour qu'on évite que des employés se retrouvent à être toujours un peu poussés dans le dos constamment.
En fait, moi, je trouve qu'une des premières actions qui est malheureusement pas souvent faite au niveau des entreprises, c'est de reconnaître, en fait, des fois les surcharges de travail. Donc, des fois, on peut pas nécessairement tout le temps changer la situation, mais au moins que le gestionnaire immédiat reconnaisse que présentement, c'est une période de surcharge, reconnaître aussi qu'il apprécie, en fait, le travail de chacun, de peut-être aussi revoir avec les employés les priorités pour décider est-ce que, dans le fond, on est capable de juste abandonner certains objectifs à court terme pour s'assurer de préserver la santé des employés qui sont en place. Et donc, de faire ce travail-là, dans le fond, le gestionnaire immédiat qu'il fasse ce travail-là avec les employés. Donc ça, c'est plus le côté patronat, et c'est certain que si on a passé une période de surcharge, moi, ce que j'encourage aussi, c'est que les gens reconnaissent que peut-être par après, avoir une journée de congé, ça peut être intéressant pour retrouver l'équilibre. Et du côté des employés, ce qui peut être intéressant, des fois, quand les gestionnaires ne le voient pas, c'est que les employés qui aient le courage aussi d'oser, en fait, faire le bilan de ce qu'ils ont à faire et oser aussi reconnaître que ça dépasse leur capacité et de commencer, en fait, à refuser de façon adéquate, c'est certain, mais d'expliquer que, en fait, ils n'arrivent pas à rentrer dans leur objectif et que, dans le fond, ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais que ça se peut qu'il y ait certains éléments qui soient moins, puis que, justement, qu'eux prennent le pas initial d'aller voir leur gestionnaire en espérant que leurs gestionnaires sont réceptifs pour, dans le fond, leur exprimer, en fait, leur difficulté à arriver à faire, dans le fond, toutes leurs tâches. Puis je pense que, en fait, c'est un travail de partenariat qui va faire que, tant au niveau des employeurs, parce qu'on sait qu'un employeur qu'un employé part en arrêt maladie ou qu'il a des problèmes de santé mentale, il n'est pas plus gagnant. Donc, de la part des employeurs, de la part des employés, c'est gagnant de vraiment faire un partenariat ensemble, en fait, pour s'assurer de passer à travers ces périodes-là et qu'il y ait justement plus de reconnaissance.
Mais est-ce que tous les employeurs sont vraiment conscients des impacts négatifs que ça a d'avoir un employé qui est en arrêt de travail? On dirait que je pense que on espère que ce soit le cas, mais je me demande si dans plusieurs entreprises, en tout cas dans des entreprises, il y a des emplois très précaires pour ces employés-là, ça va être difficile de dénoncer la surcharge de travail dont ils vont être victimes. Puis les employeurs, peut-être qu'ils sont même pas conscients que pour eux, ça va juste être vraiment dommageable pour leur entreprise, pour leur roulement, tu sais, juste la perte de nouveaux des employés, etc.
Tu dis entreprise, Pierre-Luc, mais en même temps, c'est une situation aussi qu'on observe dans le système de santé. Hein.
Oui, oui, oui.
Tu sais, comme ergothérapeute, des fois, moi, j'avais de la clientèle qui venait du système de santé.
Ouais.
Et souvent, c'était un employeur avec qui c'était les plus difficiles de faire des retours au travail, justement, parce qu'il y a plein de barrières. Donc, souvent, plus l'administration est complexe, plus c'est difficile, justement, d'aller chercher ces facilitateurs-là. Mais là, je te renvoie la balle, justement, Geneviève. Dans un retour au travail, donc suite à un trouble mental, quand tu fais un retour au travail, qu'est-ce qui peut être mis en place pour faciliter ce retour-là? Donc souvent, justement, ça prend malheureusement une situation plus extrême pour que, oups, là après, des meilleures méthodes se mettent en place pour essayer d'éviter que ça se reproduise. Qu'est-ce qui peut être mis en place pendant un retour au travail et maintenu pour la suite de la part de l'employeur?
En fait, je trouve qu'une des plus belles investissements qu'un employeur peut faire, c'est de faire une formation pour leur gestionnaire immédiat de leur employé. Donc, souvent, les cadres ou les gestionnaires supérieurs sont pas très en contact avec les gens sur le terrain. Donc, ils comprennent pas vraiment leur réalité. Et c'est souvent là, en fait, qu'il y a souvent, justement, un manque de connaissance des gestionnaires face à l'exigence que c'est d'être sur le terrain, là, comme Pierre-Luc parlait. Donc, une des meilleures choses, je trouve, c'est vraiment la formation des gestionnaires immédiats. Et c'est aussi ce qui ressort là, dans les recherches, entre autres, du CAPRI, là, de l'Université de Sherbrooke, avec Marie-Josée Durand. Donc, c'est que le gestionnaire soit formé, donc qu'il soit formé aussi à encadrer la personne dans son retour au travail. Si on est capable de faire une rencontre préliminaire au retour au travail aussi avec les professionnels de la santé impliqués dans le dossier, le gestionnaire immédiat et la personne, pour vraiment déterminer c'est quoi les attentes dans le retour au travail, qu'on voit qu'on met en place un filet de sécurité, en fait, dans le processus de retour au travail et qu'on est capable de graduer progressivement les exigences, tout dans le tout en ayant une communication qui est très fluide entre les différents acteurs, c'est certain que c'est ce qui est le plus facilitant. Et qu'après ça, dans le fond, les mesures, ce qui était identifié comme étant qui a amené le trouble de santé mentale, que dans le fond, la personne voit qu'il y a eu un engagement qui a été fait pour essayer d'améliorer cette situation-là le milieu de travail, et de part de l'employeur aussi, qu'il voit que son employé a fait des efforts pour d'enfants améliorer sa santé mentale au niveau personnel. Je pense que c'est quelque chose qui est gagnant. Puis le plus important, c'est vraiment d'être capable de respecter ses engagements. Puis malheureusement, encore, c'est quelque chose qu'on voit pas toujours. C'est que les employeurs prennent des engagements qui, avec le temps, en fait, abandonnent parce qu'ils manquent de temps ou c'est pas nécessairement leur priorité. Et ça, en fait, revient là, des fois à retraumatiser la personne qui a laissé le retour au travail, mais après, comme justement un mois, deux mois, là, une fois que ça se replace, ben la personne, le gestionnaire, dans le fond, on repart dans ses habitudes de ne pas tout le temps s'occuper de son employé. Et donc, la personne peut rechuter parce que simplement, il n'y a pas cette constance-là dans l'engagement qui avait été établi initialement.
Puis, un des éléments, Geneviève, tu me corrigeras si je me trompe, mais qui est je ne suis pas du tout un expert là, de réadaptation au travail, mais des travaux de justement Marie-Josée Durand, ce que je voyais, c'est que la notion de préserver l'identité de travailleur, même durant l'arrêt de travail, c'est un élément essentiel qui aide vraiment le retour au travail. Mais comment on fait ça concrètement pour les employés qui sont en arrêt de travail, garder son identité de travailleur pendant qu'on n'est pas au travail?
En fait, nous, dès que les gens sont référés en ergothérapie, c'est certain que nous, une des premières choses qu'on va faire, c'est parler du retour au travail. Donc, de dire qu'est-ce que j'ai besoin pour être capable, en fait, de reprendre mon travail. Donc, le fait de préserver l'identité, c'est aussi de se projeter à dire je retourne au travail. Je ne suis pas une personne qui va rester en arrêt maladie de façon indéterminée. Mon objectif reste à court terme, à moyen terme, de retourner au travail. Et à travers ça, dans le fond, dans le processus, c'est de dire je vais organiser mon quotidien de façon comme si j'ai encore mon rôle de travailleur. Ça veut dire je me lève le matin, je me prépare, je vais sortir de la maison comme si j'irais au travail, je vais planifier des activités dans ma journée pour, dans le fond, me réentraîner un peu à l'effort comme si j'étais au travail. Donc, c'est un petit peu la même chose si on fait le parallèle avec la santé physique. Donc, si je suis un travailleur en construction et que ça va être très physique, ben il va y avoir une progression au niveau des exigences de ce que je dois faire dans ma journée pour me réentraîner à être capable de retourner au travail en construction. Donc, c'est la même chose au niveau, dans le fond, de l'énergie, au niveau affectif, au niveau même physique, pour préserver, en fait, mes capacités pour être capable de retourner là, à mon emploi avant, comme que j'avais avant la problématique.
Très intéressant.
As-tu l'impression justement que une des problématiques qu'on a actuellement, c'est que les gens, tu sais, l'identité de travailleur, c'est quelque chose qui est très important un peu pour tout le monde. Là, on se rencontre, on rencontre des personnes, on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est une question qu'on pose souvent aux gens. Est-ce que de justement d'avoir une forte identité de travailleur, oui, c'est ce qui va nous donner envie de reprendre notre travail, puis ça va être, si on le maintient même dans un arrêt, ça va nous motiver à reprendre ensuite. Mais est-ce que ça peut aussi être quelque chose qui rend ça encore plus difficile quand justement on a un problème avec notre employeur ou on n'a pas la reconnaissance de notre employeur? Si on est dans, nous on s'identifie à notre travail et que dans notre milieu de travail on n'a pas la reconnaissance nécessaire, est-ce que c'est ça, des fois, qui va créer une espèce de
ouais.
clivage entre notre perception puis notre sentiment de reconnaissance.
Parce qu'au fond, c'est un peu le milieu de travail qui a rendu la personne malade. Est-ce qu'on veut absolument la rattacher à ce milieu-là qui, au fond, c'est peut-être ça qui est le problème aussi, le
oui,
milieu de travail?
Mais en fait, comme employeur, justement, de maintenir l'identité de travailleur puis de s'assurer que les gens maintiennent une espèce d'identité en lien avec l'entreprise et qui donne un feedback, justement, tu l'as dit plus tôt, là, Geneviève, mais la reconnaissance qui est super, super importante pour essayer de préserver cette identité-là qui va être très, très, très importante.
Exactement, mais en fait, justement, par rapport à ça, un beau document qui est accessible là, pour les employeurs, que je trouve qui est très détaillé et qui met en lumière de façon très concrète aussi là, pour que les employeurs le comprennent, qui a été produit par les RSST qui s'appelle « Donner du sens au travail ». Donc, c'est un document qui guide, en fait, les gestionnaires pour être capables de, justement, stimuler cet engagement-là de leurs employés envers le travail. Donc, c'est certain que, encore là, ça revient avec les capacités, les habiletés du gestionnaire à pouvoir le faire. Et c'est souvent une lacune qu'il n'y a pas. Donc, les gestionnaires n'ont pas cette habileté-là à reconnaître leur employé, à reconnaître leurs forces, reconnaître qu'est-ce qu'il apporte dans le milieu de travail. Et c'est souvent un besoin, ben, en fait, c'est un besoin criant de n'importe quel travailleur, je pense, d'être reconnu pour sa valeur personnelle, de ce qu'il apporte à la compagnie. Et je crois que c'est très humain aussi comme besoin de sentir qu'on apporte quelque chose à la société, qu'on contribue à améliorer aussi un petit aspect, que ça soit dans n'importe quel domaine, en fait. Et par rapport à ça, justement, à un moment donné, tu sais, ça se peut aussi que le fit ne se fasse pas. Donc, il y a une personne qui a peut-être besoin d'être très engagée dans d'accomplir de quoi qui est très grand pour la société, mais que le milieu de travail, en fait, c'est plutôt basique, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, à un moment donné, dans notre rôle, c'est aussi d'expliquer, de dire, ben peut-être que tu peux utiliser tes compétences, tes moyens, mais que ton milieu de travail ne pourra jamais t'offrir, en fait, cet accomplissement-là que toi, tu as besoin, parce que c'est juste pas la mission non plus de ton entreprise. Donc, des fois, tu sais, il va y avoir des emplois qui sont plus simples et que, dans le fond, c'est correct pour certaines personnes qui préfèrent ce genre d'emploi-là et qui se réalisent à l'extérieur de leur emploi. Puis, en dit que d'autres qui veulent vraiment s'accomplir dans leur emploi. Donc, ils ne veulent pas nécessairement avoir cette attention-là tout le temps envers leur employeur si ce n'était pas ça l'emploi à la base.
C'est vraiment intéressant. On en avait déjà parlé à l'émission il y a plusieurs semaines quand même, mais il y avait une étude qui avait été faite sur comment les gens perçoivent leur emploi. Puis justement, des fois, des gens, même si la description de travail va être la même, comment on perçoit nos tâches va vraiment varier. Donc, une personne va pouvoir dire, par exemple, deux personnes qui sont préposées dans un hôpital, donc qui font du ménage de chambre, mais il y en a un qui se perçoit comme préposé, l'autre se perçoit comme une personne qui a un accès privilégié à des gens dans des moments où ils sont vulnérables, qui en profite pour parler aux gens et qui se percevait vraiment comme une intervenante presque dans
de
ce processus-là. Peut-être que le travail de faire le ménage en soi, c'était peut-être moins valorisant pour cette personne-là, mais elle cherche sa valorisation ailleurs. Donc, comme employeur, aussi de reconnaître que pas tout le monde qui va chercher les mêmes choses dans un emploi, puis d'avoir cette flexibilité-là, peut-être de laisser une petite marge de manœuvre à chacun de ses employés sur comment et de quelle manière ils peuvent faire leur travail.
On pourrait faire une chronique entière juste sur la notion de marge de manœuvre, mais on se reprendra une autre fois, peut-être.
Mais écoute, merci beaucoup, Geneviève.
Mais merci à vous. C'est un très grand privilège pour moi, en fait, de pouvoir partager ça.
Ah, ben écoute, ouais, on espère que ça se rende dans les oreilles des bonnes personnes et que le chemin se fasse au niveau des travailleurs et des employeurs.
Merci beaucoup.
Merci.